France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 tout à la fois exceptionnel et du quotidien. Exceptionnel car nous le réalisons en direct d'un train en marche entre les gares de Thionville et de Metz. Performance technique pour parler des trains du quotidien qui séduisent de plus en plus de Français malgré les galères.
La semaine dernière, on a enchaîné mardi le TER qui a percuté 3 vaches. Et le mercredi, j'arrive à la gare, et là, panne de courant à l'aiguillage de Luxembourgville. Aucun train qui part aussi. Donc là, 2 jours d'affilée, c'est vrai qu'en général, on rentre chez soi, on se dit « mais c'est pas possible ».
C'est la vie d'1 300 000 Français qui grimpent dans ces trains chaque jour. Souvent plus rapide, plus écologique aussi que la voiture, mais parfois en retard, souvent bondé. Alors les régions réfléchissent à faire appel à d'autres sociétés que la SNCF, comme Transdev.
Clairement, on se positionne face à la SNCF sur un certain nombre d'appels d'offres, effectivement, toujours sur des plus petites lignes et des lignes TER, là où les régions veulent bien nous faire confiance.
Comment mieux se déplacer en train? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui sur l'un des axes les plus fréquentés de France, Nancy, Metz, Luxembourg. Et avec vous, Céline Asselot. Bonjour Céline.
Bonjour Jérôme.
Toute l'actualité de ce jeudi a commencé par cette attaque à Washington la nuit dernière.
Et qui a provoqué une vague d'indignation à travers le monde. La France dénonce un acte odieux de barbarie antisémite. Au lendemain donc de cette fusillade devant le musée juif de Washington. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter sur place. 2 employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis ont été tués et un suspect a été arrêté.
Un homme de 30 ans, originaire de Chicago, il a crié « Libérez la Palestine » après la fusillade.
Merci Sébastien Paour, on vous retrouve tout à l'heure pour en savoir davantage. De son côté, Israël accuse plusieurs pays européens d'incitation à la haine, nous dira notre correspondant à Jérusalem. On fera le point aussi sur la mobilisation des taxis, sur la liste des métiers en tension qui, enfin, a été dévoilée. Elle était très attendue. Et puis le réseau social TikTok a-t-il vraiment sa place sur la croisette? On verra que le partenariat entre le réseau social et le festival suscite beaucoup de critiques.
Et puis juste avant 14h, nous saluerons le centre Pompidou-Metz qui fête ses 15 ans cette année. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le TER 88 729, voilà notre studio aujourd'hui. Ce train arrive du Luxembourg. Nous sommes montés à bord à Thionville à 12h45. Nous arrivons à Metz dans 12 minutes, 13h14. Nous avons passé la gare de Mézières-les-Metz il y a quelques minutes. Celle de Voipy est en approche. Alors ce train, évidemment, est loin d'être complet. À 13h02, c'est plutôt le matin, mais 12 000 voyageurs empruntent cet axe matin et soir. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui travaillent aussi au Luxembourg. Ces opportunités d'emploi et ces salaires plus avantageux, c'est votre cas, Jérémy Watkins, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez très bien ce train, il y a plus de monde le matin.
Oui, là c'est différent, là, on va dire, c'est bien.
Comment ça se passe le matin, à 6h30 pour vous au départ de Metz?
6h30 au départ de Metz, il y a quand même beaucoup de monde, enfin, par rapport à... Enfin, moi je le vois depuis 9 ans que je prends le train. Au tout début, je pouvais avoir un carré à moi tout seul de Metz à Luxembourg, maintenant c'est plus vraiment le cas. Enfin, c'est un peu déjà la bataille pour avoir un siège dès 6h30 à partir de Metz. Et les gares en aval, après les usagers qui viennent en aval, c'est de plus en plus compliqué. Enfin,
ceux qui montent à Thionville, ils restent debout.
Globalement, ceux qui montent à Thionville restent debout.
Ça, c'est la règle. Mais vous préférez le train?
Oui, non, c'est clair. Enfin, il n'y a pas une bonne manière d'aller à Luxembourg, mais en tout cas, enfin, la manière la moins pire, ça reste le train. Enfin, rester assis dans une voiture pendant 1h30 dans les embouteillages, enfin, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas.
C'est ce qui séduit de plus en plus de Lorrain. Bonjour Roselyne Hiss-Wolf. Merci de nous accueillir sur votre ligne. Vous êtes directrice des lignes TER en Lorraine. Vous confirmez ce que nous dit Jérémy d'expérience, davantage de voyageurs ces dernières années sur cette ligne?
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Effectivement, ces dernières années, nous observons une croissance régulière de la fréquentation sur cet axe-là, tout particulièrement pour rejoindre le Luxembourg. Et de plus en plus de voyageurs choisissent la mobilité douce en empruntant le TER, et effectivement, plutôt que la voiture.
Vous diriez que la ligne est saturée aujourd'hui?
Alors, à cette heure, effectivement, la ligne est très chargée et nous réfléchissons pour augmenter la capacité de cette ligne-là.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Gérard, la directrice des lignes de la SNCF en face de vous? Qu'est-ce que vous voudriez en plus?
Déjà, il y a plusieurs choses, enfin, de manière très, très spécifique. Le soir, il y a un train de moins depuis quelques mois pour rentrer en France. Si je dis le 17h28, ça va parler à beaucoup de gens depuis la gare du Luxembourg. Ça, c'est une première chose. Après, je suis pas sûr que si ce train il est géré par les SNCF ou les CFL, je ne sais pas.
Ou la région, aussi, qui rentre en ligne de compte aussi. Donc, des questions de cadencement, des questions de retard. On aura l'occasion d'en parler. Alors qu'on arrive, c'est la gare de Voipy ici ou c'est la gare de Metz Nord.
On est à Voipy,
voilà, et on est à Metz dans quelques minutes. On va se retrouver avec tous nos invités pour évoquer évidemment tous ces sujets qui concernent énormément de Français. Je vous l'ai dit, plus +1 300 000 prennent ces trains chaque jour. Avant cela, on va parler toute l'actualité de ce jeudi. Avec vous, Céline Asselot, je vous laisse la main. On commence donc par cette fusillade. C'était la nuit dernière à Washington.
Oui, merci Jérôme. La France qui renforce d'ailleurs aujourd'hui la sécurité des sites liés à la communauté juive. Annonce ce matin de Bruno Retailleau qui a fait cette demande au préfet. Le ministre de l'Intérieur souhaite des dispositifs de sécurité qui soient, je cite, visibles et dissuasifs au lendemain donc de cette attaque survenue devant le musée juif de Washington qui a donc fait 2 victimes, 2 employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis qui venaient de quitter une réception organisée au musée. Ils ont été tués par balle par un jeune homme qui a rapidement été interpellé. Sébastien Paour, on vous retrouve en direct de Washington. Est-ce qu'on en sait plus ce midi sur le déroulé de cette attaque ?
Oui, et on découvre notamment que l'auteur présumé aurait pu ne pas être interpellé, parce que cet homme de 30 ans, barbu, en veste et en chemise blanche, a d'abord été pris pour une victime du tireur. Plusieurs témoins racontent qu'il venait d'ouvrir le feu à 10 de reprises devant le musée juif de Washington, et que l'un des agents de sécurité du musée l'a laissé entrer. Il était trempé, c'était le déluge hier soir ici. Il semblait en état de choc et la sécurité l'a pris pour une victime de la fusillade. Ils l'ont fait entrer, on lui a proposé de l'eau, on l'a fait s'asseoir et on lui a demandé ce qui s'était passé, comment il allait, s'il était blessé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a répondu « Appelez la police, c'est moi qui ai fait ça ». Il a alors sorti un kéfier rouge, le foulard symbole de la cause palestinienne, et il a dit « J'ai fait ça pour Gaza ». L'instant d'après, quand il a été emmené par les forces de l'ordre, il s'est tourné vers l'intérieur du musée. Il a crié « Free, free Palestine, libérez la Palestine ». Il a aussi indiqué où il avait jeté son arme, qui a été retrouvée ensuite.
Et est-ce qu'on en sait davantage, Sébastien, sur l'identité de ces victimes ?
Oui, il s'agit de Yaron Lichinsky et de Sarah Milgrim, d'après le ministère israélien des Affaires étrangères. Lui était assistant de recherche au département politique de l'ambassade d'Israël ici à Washington. Elle organisait des voyages en Israël. Le couple avait le projet de se marier. L'ambassadeur d'Israël a expliqué que le jeune homme avait acheté une bague cette semaine et qu'il avait l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem.
Merci Sébastien Paour, correspondant de France Inter à Washington. Fusillade qui a suscité de très nombreuses réactions à travers le monde. La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux États-Unis, dit par exemple Donald Trump. Emmanuel Macron dénonce un acte odieux de barbarie antisémite. Alors qu'en Israël, cette attaque a provoqué beaucoup de tristesse, de la colère, mais aussi des accusations. Bonjour Michel Paul.
Céline, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou annonce renforcer la sécurité de toutes les représentations diplomatiques d'Israël dans le monde.
Oui, et les réactions sont très fortes. Nous constatons le terrible prix de l'antisémitisme et l'incitation furieuse à la haine contre l'État d'Israël, affirme notamment Benjamin Netanyahou. Dans sa réaction, le Premier ministre fait allusion aux accusations antisémites de meurtres rituels adressés aux Juifs à diverses périodes de l'histoire. Drapeau en berne dans les ambassades d'Israël dans le monde, ordonne le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, qui appelle, lui, les dirigeants mondiaux, « Cessez vos accusations mensongères, soutenez Israël face à l'axe du mal ». Le ministre israélien des Affaires de la Diaspora, Amichai Shikli, a publié une déclaration condamnant les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et du Canada, les accusant d'avoir attisé les forces de la terreur par leur incapacité à fixer les lignes rouges morales. Plusieurs élus de droite accusent directement Yair Golan, le chef de file du Parti des démocrates en Israël, d'être responsable de cette fusillade après qu'il a affirmé qu'Israël tuait des bébés comme un passe-temps. La gauche radicale s'allie aux terroristes, affirme de son côté la ministre Miri Regev. Plusieurs élus accusent directement donc Yair Golan, et à tel point que le président israélien Isaac Herzog appelle à la modération « Arrêtez ces combats de boue disgracieux ». Affirme-t-il.
Merci Michel Paul, vous êtes le correspondant à Jérusalem de RFI et France Inter. C'est une nouvelle sanction contre Moscou. Le Parlement européen approuve la mise en place d'une surtaxe sur les engrais en provenance de Russie, décision qui n'est pas anodine car des millions de tonnes d'engrais russes sont importés chaque année en Europe. Il faut cesser d'alimenter la machine de guerre de Vladimir Poutine, assure la rapporteure du texte. Le Kremlin, de son côté, affirme que l'UE se tire une balle dans le pied en adoptant ces surtaxes. Et puis toujours à l'étranger, l'élection présidentielle ne ne sera pas annulée en Roumanie. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours du candidat nationaliste Georges Simion, battu dimanche au second tour, qui avait dénoncé des ingérences extérieures. La victoire du maire pro-russe de Bucarest, Nicu Zordan, est donc maintenant définitivement validée. On en vient maintenant à la mobilisation des taxis qui se poursuit. Quatrième jour d'action et de rassemblement autour de la gare de Pau, notamment, ou encore aux abords du ministère des Transports à Paris. Plusieurs centaines de véhicules bloquent le boulevard Raspail. Vous vous trouvez. Bonjour Sarah Mansourin.
Bonjour à tous.
Les taxis qui protestent toujours contre la nouvelle tarification du transport des malades. Les artisans taxis craignent pour leur chiffre d'affaires, mais les salariés des entreprises de transport craignent eux pour leur emploi. C'est le cas, Sarah, de ces deux salariés venus d'Isère que vous avez rencontrés.
Oui, c'est la première fois de leur vie que Nathalie et Isabelle manifestent. Après 600 km parcourus hier, elles viennent de passer la nuit dans leur voiture.
Notre patron nous a dit si la loi elle passe, on revient de vacances d'été, en août. En septembre, là, l'entreprise est fermée.
Et moi, personnellement, j'ai 59 ans. Qu'est-ce que je vais faire à 59 ans, quoi ?
Ça fait plus de 12 ans que je fais ça. J'aurais jamais cru que je pouvais perdre mon emploi dans le taxi, transport médical.
D'ailleurs, 90% de l'activité de leur entreprise dépend du transport médical. Et cette nouvelle tarification forfaitaire les inquiète aussi pour leurs patients.
Ça va être terrible pour les personnes âgées. Hein. C'est mourir dans les campagnes. Hein. Nous, on est vraiment proche de ça. Nous, on se rend compte de ça, en fait.
Ils sont inquiets aussi, eux aussi, ils nous soutiennent.
Et l'esprit de cette convention inquiète Isabelle et Nathalie depuis le 1er mars. Hein. Décret incite déjà à faire du covoiturage sanitaire le mode de transport privilégié pour les malades. Elles ne se disent pas opposées, mais craignent un système d'économie au détriment de la santé.
Nous, quand on peut, on le fait. Mais s'il y a une personne qui habite trop loin de l'autre, on ne peut pas les mettre ensemble. Il y a des heures différentes.
Il y a des gens qui ont des pathologies qui ne peuvent pas être transportés à plusieurs. Quelqu'un qui a un cancer qui fait de la chimio ne peut pas se permettre d'attraper une maladie en étant avec quelqu'un qui est porteur d'un virus dans le véhicule. Il faut penser à tout ça aussi. Nous, on y pense.
Et elle concède qu'il y a certainement des économies à trouver, mais le gouvernement, disent-elles, ne regarde pas au bon endroit.
Merci Sarah Mansourin en direct du boulevard Raspail à Paris grâce aux moyens techniques de Mickaël Simon. On a donc entendu ces salariés à votre micro, Sarah, s'inquiéter pour leurs patients qui pourraient être affectés, menacés même par la réforme du transport sanitaire. Alors qu'en disent les intéressés ? Eh bien, ils sont plus mesurés, pas forcément opposé d'ailleurs à l'idée de remettre à plat ce système qui donne lieu à des abus. Écoutez Catherine Simonin, les membres de France Assos Santé qui représente 85 associations de patients.
Il faut aussi se poser la question de pourquoi il y a un dérapage budgétaire au niveau des transports. Il y a beaucoup plus d'ambulatoires et de chirurgies ambulatoires qui nécessitent des transports, surtout dans la ruralité. Ensuite, des parkings payants pour accéder aux hôpitaux. Cependant, il faut limiter les abus. Il est donc nécessaire d'une part de faire des économies à la sécurité sociale, mais surtout que les prescripteurs prescrivent le bon transport pour la bonne personne. Et pour aller à des séances de kinésithérapie, de rééducation, évidemment le transport partagé, quand les personnes ne sont pas trop éloignées les unes des autres et que ça ne rallonge pas trop le temps de parcours, c'est évident qu'il faut concilier, trouver des règles qui permettent de pérenniser notre assurance maladie, mais aussi d'avoir un service rendu aux usagers de grande qualité.
Catherine Simonin, membre de France Assos Santé au micro France Inter de Victor Dolande. Les taxis, eux, veulent poursuivre leur mobilisation. Leurs organisations prévoient de déposer un nouveau préavis de grève pour lundi et mardi prochain. Quels sont les secteurs autorisés à embaucher des travailleurs sans papier ? La liste des métiers en tension a été publiée ce matin. Enfin publiée, devrait-on dire, car elle était attendue depuis plusieurs mois par les professionnels qui préparent la saison estivale. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Et ce sont environ 80 métiers en manque de main-d'œuvre qui y sont recensés.
Oui, 80 métiers dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, l'aide à domicile, l'hôtellerie ou encore la restauration. Les travailleurs étrangers dont les métiers figurent sur cette liste pourront ainsi espérer prétendre à un titre de séjour à certaines conditions, bien sûr, nombreuses. Il faudra pour ça quand même qu'ils puissent fournir à l'administration 12 bulletins de salaire sur les 24 derniers mois, ainsi que la preuve de 3 ans de résidence en France, sachant que techniquement cette liste doit aussi faciliter les choses à l'employeur qui peine à recruter dans son domaine. Ce matin, plusieurs acteurs syndicaux et patronaux déploraient quand même que le dispositif n'aille pas assez loin, avec une liste qui reste encore assez restrictive. Liste qui, vous l'avez dit, a mis beaucoup de temps à être publiée, plusieurs mois. Certains s'étonnant qu'elle l'ait été maintenant, 4 jours seulement après l'élection de Bruno Retailleau à la tête des LR. Le ministre de l'Intérieur, soupçonné par le corps syndical syndicale d'avoir bloqué la sortie de cette liste pour qu'elle ne parasite pas sa campagne.
Merci Maxime Deb, Service Économie de France Inter. Le secteur agricole, vous le disiez, fait donc face à des difficultés de recrutement, mais doit aussi gérer les aléas climatiques de plus en plus nombreux avec la hausse des températures. En début de semaine, ce sont de violents orages qui se sont abattus sur la région Occitanie et les dégâts sont très importants dans les exploitations, comme chez ce maraîcher installé à Bioul, au nord de Montauban, où s'est rendu Rémi Doutre.
Deux jours après l'orage, Michel ne peut toujours pas rentrer dans ses champs avec son tracteur tellement il a plu.
C'est la première fois.
20 ans qu'il travaille dans les champs.
Surtout une si grosse quantité. J'ai le voisin, il a une petite station météorologique, il a relevé 175 mm. Le plus gros est tombé entre 1h30 et 2h de temps.
La route pour aller aux plantations est encore marron debout, les fossés remplis d'eau dans les champs, les légumes sont tous abîmés.
Il y a une partie là, ces oignons, je ne sais pas si ça va reprendre, parce qu'ils se sont déterrés. Alors après, voilà la série de pommes de terre que je vous disais. C'est haché les feuilles, tout ça. Voilà, demain, je vais essayer de ramasser les salades que je peux sortir parce qu'elles sont pas belles pour le marché. Vous voyez comment c'est haché. Ça, c'est des salades que je vendais depuis une semaine.
Sur les marchés de Montauban et de Caussade, difficile de chiffrer les pertes pour l'instant, c'est encore tôt. Mais c'est sûr que les clients en auront moins que d'habitude.
J'en vendrai moins, je dirais aux clients. Bon, j'en ai pas telle semaine, telle variété, voilà.
Et ils pourraient même en avoir encore moins si Michel ne peut pas vite retourner dans les champs.
Là, il me faut traiter, parce qu'après chaque orage, les maladies arrivent.
Des maladies causées par un soleil trop fort après un trop plein de pluie.
Reportage signé Rémi Doutre, ici Occitanie, ex-France Bleu. Piocher dans son livret A plutôt que d'y stocker son épargne. Voilà la tendance des Français ces dernières semaines. Au mois d'avril, le montant des retraits a été supérieur de 200 millions d'euros au montant des dépôts. C'est un record depuis 2009 pour le livret A, conséquence de la baisse du taux de rémunération passé de 3 à 2,4% au début de l'année. Un rappel pour tous les habitants des départements notés de 1 à 19, de l'Ain à la Corrèze, vous avez jusqu'à ce soir, 23h59, pour faire votre déclaration de revenus en ligne. La date limite est fixée au 5 juin pour les contribuables des autres départements. La littérature pour répondre à la barbarie, la culture pour faire face à la violence. Voilà comment on pourrait résumer l'état d'esprit du prix Dominique Bernard, dont les premiers lauréats ont été récompensés ce matin. Une cérémonie était organisée à Arras, dans le Nord, en présence notamment de la ministre Elisabeth Borne. Ce concours de nouvelles à destination des collégiens porte le nom de ce professeur de français assassiné en octobre 2023 au collège Gambetta d'Arras par un jeune radicalisé. Et c'est sa veuve Isabelle Bernard qui a souhaité la création de ce prix.
C'est un prix qui a pour objectif de faire penser les élèves, de les faire réfléchir. On passe par l'écriture pour ça. Et je pense que là, on a quand même une réponse à la barbarie, puisqu'il s'agit de maîtriser le langage et le développer quelque part. On a été étonnés, on a été surpris, oui, on a été émus, on a été parfois intrigués, on a été aussi émerveillés par certaines nouvelles, oui. Je pense que ça a été plus compliqué pour les élèves de Gambetta en particulier.
Est-ce que dans leurs écrits, on retrouve des traces de ce qu'ils ont vécu ?
Ils ont travaillé sur la tolérance, pas sur le drame. Ils ont différentes manières d'appréhender la tolérance et c'était très intéressant et très enrichissant.
C'est un prix que Dominique Bernard aurait salué aujourd'hui pour vous ?
Je ne sais pas, il n'est plus là pour le dire. En revanche, il est important de ne pas l'oublier, c'est ça qui compte. C'était un passionné de littérature et de culture.
Isabelle Bernard au micro de Vanessa Lamar, ici Nord, ex-France Bleu. 10 mois d'enquête, des milliers d'échanges et de détections d'images auront été nécessaires. L'Office des mineurs annonce aujourd'hui avoir mené une vaste opération de démantèlement d'un réseau de pédocriminalité. 55 hommes ont été interpellés, âgés de 25 à 75 ans. Ils échangeaient des contenus pédopornographiques sur la messagerie Telegram. Et puis Interpol, de son côté, publie le bilan de son action contre le trafic des biens culturels. L'année dernière en Europe, 80 personnes ont été arrêtées et près de 38 000 objets saisis. Les auteurs pillaient des épaves ou des sites archéologiques pour récupérer et pour revendre des pièces de monnaie anciennes ou encore des instruments de musique. On part maintenant à Cannes. Son tapis rouge, ses films, ses paillettes et son partenariat avec TikTok. Le logo est visible un peu partout sur la croisette. Et c'est un problème pour la députée macroniste Laure Miller, qui est rapporteure de la commission d'enquête parlementaire sur TikTok. Elle s'inquiète des effets néfastes de la plateforme sur les jeunes utilisateurs. Et elle demande donc aux organisateurs du festival de réexaminer la pertinence de ce partenariat.
TikTok, ce n'est pas anodin. C'est des contenus très problématiques qui ne sont pas modérés. On a un algorithme chez TikTok qui est surpuissant, qui est très problématique, puisque il fait en sorte que si vous avez le malheur, j'allais dire, de passer quelques secondes de plus sur une vidéo, y compris parce qu'elle vous choque, l'algorithme considère que ce sont des contenus qui vous plaisent et donc il vous enferme très très vite, mais je dis vite, en quelques minutes, dans des contenus problématiques qui peuvent être parfois la scarification, parfois la promotion du suicide, pour ne prendre que cet exemple-là. Donc je regrette en effet que le Festival de Cannes, qui est toujours très engagé, ne soit pas engagé sur ce terrain des droits de nos enfants.
La députée Laure Miller au micro de Victor Vasseur. Le Festival de Cannes qui va rendre hommage aujourd'hui par ailleurs à deux figures du cinéma populaire français, le comédien Pierre Richard et le cinéaste Cédric Clapiche, dont le nouveau film La Venue de l'Avenir est présenté hors compétition. Voilà pour l'actualité cannoise. On va maintenant remonter plus au nord, en direction de Metz où nous attend Jérôme Cadet pour cette édition spéciale du 13-14.
Nous étions à l'heure, chère Céline, 13h14 en gare de Metz. On a eu le temps de sortir de cette magnifique et imposante gare de Metz, retrouver nos invités pour parler des trains du quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux à les emprunter. On va en parler ensemble jusqu'à 14h.
France Inter présente
le podcast Ma différence à moi.
Julia Foyce.
Il s'appelle Louis, Kiemis, Julie, Martin, Bérénice et leur corette extraordinaire. Trans, noir, gros, brûlé, accidenté, handicapé, ça c'est l'enveloppe, mais dedans, quelles sont leurs peurs, leurs rêves, leurs envies? Pendant 5 épisodes, nous allons marcher dans leurs pas, voir avec leurs yeux, vivre leur vie pour comprendre ce que hors norme veut dire.
Ma différence à moi.
À télécharger sur l'appli Radio France.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un ciel changeant aujourd'hui.
Oui, il hésite souvent entre nuages et éclaircies. Alors des éclaircies qui deviennent quand même plus discrètes des Pays de la Loire vers les Hauts-de-France et le Grand Est, avec parfois une petite averse. Averse possible aussi en région parisienne en fin de journée. C'est sur les Pyrénées, sur la Corse et du Massif central vers le Jura et les Alpes que les nuages sont vraiment les plus nombreux, avec des averses fréquentes d'ailleurs du Jura aux Alpes. Il neige vers 1900 mètres. On a un orage possible en fin de journée sur le sud des Alpes et sur le relief varois. Du Roussillon à la Côte d'Azur, c'est du soleil, mais avec du vent jusqu'à 80 km à l'heure pour Mistral et Tramontane. Et puis l'ambiance se rafraîchit. Alors comptez souvent 15 à 20 degrés, 19 degrés à Metz, à Toulouse, à Montélimar, 20 à Paris, jusqu'à 23 près de l'océan et 21 à 26 en Méditerranée. Demain, alternance de nuages et d'éclaircies au programme, du vent en Méditerranée et des températures en baisse le matin. On va frôler les gelées sur le nord du Grand Est.
Ici, pour l'instant, c'est grand soleil. Merci Elodie Calac. Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Un 13-14 un peu particulier aujourd'hui. Nous avons pris l'antenne tout à l'heure, vous étiez avec nous à 13h en direct d'un train, d'un TER, performance technique hein, pour nous à France Inter, et réussi, tout s'est bien passé. Quelques minutes dans ce train entre Thionville et Metz, mais un train que les usagers de la SNCF ici connaissent bien, 12 000 par jour entre Metz, Thionville et le Luxembourg, de plus en plus nombreux. C'est le cas aussi sur beaucoup d'autres lignes, vous qui prenez le train entre Tours et Orléans, entre Saint-Nazaire et Nantes, entre Nice et Marseille, entre Saint-Étienne et Lyon, vous savez précisément de quoi je veux parler. C'est pour ça qu'on a choisi d'évoquer ce thème du quotidien aujourd'hui ensemble. Alors nous sommes arrivés en gare de Metz, nous sommes sortis, nous sommes installés sur le parvis de cette gare pour retrouver nos invités et pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire mieux et comment est-ce qu'on peut convaincre davantage de Français de prendre le train. Stéphanie Domange est avec nous, bonjour. Directrice régionale de la SNCF, directrice SNCF Voyageur TER Grand Est. Merci d'être là. Est-ce qu'on entend, est-ce que vous entendez nous dire bonjour?
Bonjour.
Voilà, c'est mieux comme ça. David Valence avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Président de la commission transport, déplacement et infrastructure à la région Grand Est, conseiller régional. On a là deux acteurs très importants du transport du quotidien pour les Français, la SNCF et la région. Je salue également Olivier Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Vice-président de la FNOT, la Fédération nationale des usagers des transports. La FNOT NASNOT dans le Grand Est. Et puis, on a demandé un regard un peu extérieur. C'est celui de Vincent Hein. Bonjour.
Bonjour.
Un peu extérieur, venu du Luxembourg. Un peu plus au nord, vous dirigez la fondation IDEA. C'est un centre de réflexion économique qui est basé au Luxembourg. Et vous réfléchissez sur ces questions de mobilité et de transport. D'abord, David Valence, est-ce qu'on peut expliquer simplement aux auditeurs qui fait quoi ? Que fait une région, ici la région Grand Est, et que fait la SNCF dans le transport de ces centaines de milliers de Français tous les jours ?
Alors d'abord, les régions sont propriétaires du matériel ferroviaire, c'est-à-dire des locomotives.
Alors on a un petit problème pour vous écouter, on va vous changer de micro, est-ce que c'est bon ? Voilà,
oui, allez-y. Première chose, les régions sont propriétaires des locomotives et des trains. Ça c'est la première chose à savoir.
Le matériel, c'est vous ?
Les régions sont propriétaires. Et ensuite, elles décident combien ces trains vont faire d'aller-retour, où ils vont s'arrêter et combien les voyageurs vont payer. Et pour pouvoir faire rouler ces trains, pour pouvoir les entretenir, la région a un contrat avec la SNCF ou avec un autre opérateur, puisque la concurrence commence dans le Grand Est comme ailleurs. Et donc c'est comme ça que ça se passe. La SNCF fait rouler les trains, la région décide de combien de trains circulent, où ils s'arrêtent et combien on paye quand on prend le train.
Vous parlez de la concurrence, on va en parler avec les reportages notamment de Luc Chemla qui s'est rendu à Uckange pour nous parler de ces municipalités qui desservent avec les bus. Hein. Il y a ici un bus qui est passé il y a quelques minutes pour desservir les gares, il faut desservir les gares en bus, qui peuvent construire des parkings aussi. On parlera aussi de cette petite ligne qui va être relancée entre Nancy et Contrexéville. Et donc l'autre acteur, c'est la SNCF. Vous, Stéphanie Domange, qu'est-ce que vous faites rouler ce matériel qui appartient à la SNCF, à la région ?
À la région, on fait rouler le matériel, mais également on entretient les trains, on contrôle à bord des trains, on fait du service et puis on fait la distribution également des titres de transport pour le compte du conseil régional. On est opérateur ferroviaire de service.
Vous constatez ici que les Français sont de plus en plus nombreux à prendre ces trains ?
Absolument. En Grand Est, depuis 2019, c'est 30% de trafic en plus. Et ici, particulièrement entre Metz et le Luxembourg, il y a une vraie dynamique à la fois démographique, d'emploi, qui fait que le trafic augmente de manière très sensible.
Des gens qui vont travailler au Luxembourg, mais aussi des étudiants. J'habite à Nancy, je fais mes études à Metz, ou inversement. Ce qui fait que, David Valence, votre région, la région Grand Est, est l'une des régions où on prend le plus le train en France ?
Oui, on a tous les jours entre 180 et 200 000 personnes dans les trains. Par rapport à ce que disait Stéphanie Demange, on fait rouler 27% de trains en plus par rapport au moment où la région s'est créée, parce que notre raisonnement, c'est de se dire la première raison pour laquelle on prend le train, c'est qu'il y en a beaucoup. Si vous discutez plus longtemps avec vos collègues de travail près de la machine à café, si vous avez envie d'abréger le déjeuner avec votre belle-mère, vous devez pouvoir prendre un train avant ou après. Et la première condition de pouvoir prendre le train, c'est qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois qu'on a la capacité, on met effectivement plus de trains sur les lignes. Alors c'est un peu exigeant pour SNCF en termes d'organisation parfois et de planning. Ça suppose de gros investissements, mais c'est une vraie volonté politique de desservir tous les territoires avec beaucoup d'offres.
Alors 12 000 voyageurs empruntent cette ligne chaque jour, Nancy, Metz, Luxembourg. J'ai voulu savoir ce que ça impliquait en termes de vie personnelle. Voilà pourquoi j'ai retrouvé ici même, en gare de Metz, hier après-midi, Julien. Julien est ingénieur à la Poste luxembourgeoise. Il fait les allers-retours tous les jours. Sa femme, elle travaille à Thionville. Ils ont deux enfants et c'est toute une organisation. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Julien ?
Oui, c'est moi.
Bon, merci pour le rendez-vous. Vous descendez du train, là, c'est ça ?
Exactement, ouais, je rentre de Luxembourg à l'instant, là, donc voilà.
Donc on est là dans la gare de Metz. Vous êtes là tous les matins et vous rentrez là tous les soirs ?
Ouais, exactement, ouais. Tous les matins, tous les soirs. Et puis, du fait d'une organisation familiale pas toujours pareil, je prends des fois le train très tôt, des fois le train un peu plus tard.
Combien de temps de trajet ?
Alors la théorie, c'est que les trains rapides, ils mettent 50 minutes.
50 minutes ?
Voilà, exactement, ouais. De gare à gare. Et la pratique, c'est plutôt autour d'une heure en général. Et puis, ça peut aller jusqu'à... Je crois que mon record doit être à 4h30, quelque chose comme ça.
Voilà. Ça arrive souvent, il y a souvent des retards ?
Alors, des petits retards, c'est assez régulier, mais ça va. Par contre, en fait, le problème, c'est les gros retards. C'est imprévisible et on est sûr d'y passer, je dirais, plusieurs fois dans l'année.
Votre femme est aussi dans la même situation que vous ? Elle travaille à Thionville.
Voilà, exactement. Elle travaille à Thionville, mais elle prend pas le train. C'est ce qui nous sauve. Je pense que
elle prend la voiture ?
Ouais, elle prend la voiture. Mais au moins, on a l'assurance qu'elle va pouvoir rentrer en temps et en heure. même avec du retard, mais potentiellement, c'est plus sûr que le train, quoi.
Voilà, on sort de la gare, on n'est pas côté centre-ville de Metz, on est côté centre Pompidou, donc exactement, au sud de la gare. Vous habitez dans le quartier du Sablon, c'est ça?
Ouais, exactement, le nouveau quartier là qui est tout proche du centre Pompidou.
La voiture, le covoiturage, c'est une option que vous avez explorée?
En fait, il fut un temps au début, quand je travaillais au Luxembourg dans une autre entreprise, j'avais une voiture de fonction, et en fait c'était vite la galère parce que là pour le coup on est sûr de pouvoir rentrer chez soi, mais les temps de trajet sont encore plus longs qu'avec le train et la fatigue
c'est
elle est... Metz-Luxembourg, honnêtement, quand ça roule bien, ça va être 1h10. Quand ça roule mal, 1h40, 1h45, c'est pire.
Donc le train est plus intéressant pour le temps.
Voilà, exactement.
Et pour le coût, combien ça vous coûte? Assez vert, on va pouvoir traverser.
Alors un abonnement Metz-Luxembourg au mois, c'est 116€, je crois.
Vous payez 116€ par mois.
116€ par mois. Honnêtement, je pense que le prix n'est vraiment raisonnable par rapport au nombre de kilomètres que ça représente dans un mois.
Est-ce qu'il y a des jours où vous dites c'est bon, c'est fini?
Ah, il y a des jours, je rentre chez moi. Alors, il y a des jours, je rentre chez moi, je me dis mais c'est pas possible. On va juste aller à droite.
Ouais.
C'est pas possible qu'effectivement ça marche aussi mal. La semaine dernière, par exemple. La semaine dernière, on a enchaîné mardi le TER qui a percuté 3 vaches. Interruption de tous les trains pendant 6 ou 7 heures. Enfin bref, il n'y avait pas de train avant 19h le mardi soir. Et le mercredi, qui est le jour où j'essaye justement de rentrer plus tôt, j'arrive à la gare. Et là, panne de courant à l'aiguillage de Luxembourgville. Aucun train qui part aussi. Donc là, 2 jours d'affilée, c'est vrai qu'en général, on rentre chez soi, on se dit mais c'est pas possible. Est-ce que j'ai la poisse? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Que je change de métier?
Là, ce soir, c'est vous qui vous occupez de vos enfants?
Ouais, en partie. Il y a le match de Metz aussi. Là, en l'occurrence, vers 17h40, il y a une activité de la petite. Tous les jours, il y a un petit peu... Il y a potentiellement un suspense si ça va bien se passer ou pas. Il faut pouvoir s'adapter, il faut avoir un métier qui permette de le faire aussi, parce que, et un employeur qui soit un peu compréhensif.
On est près de chez vous, là?
Exactement, j'habite juste ici, ouais.
Merci beaucoup.
Et avec plaisir. Si vous arrivez à savoir comment on récupère 9000 places supplémentaires d'ici 2030, ce serait top.
Voilà le témoignage de Julien pour le foot. Là, j'ai la réponse. C'est un partout. Metz-Reims hier soir, tout près d'ici, à Saint-Symphorien pour le barrage retour pour l'accession à la Ligue 1. Pour les places en plus, je vais donner la parole à David Valence dans un instant pour répondre à la question de Julien sur les retards. Stéphanie Domange, ils sont souvent en retard, vos TER?
Des incidents, ça arrive, mais globalement sur Grand Est, on est à 94% de régularité. Ce qu'il y a, c'est que quand on voyage tous les jours, il faut être au-delà de 90% parce que vous faites l'aller-retour 5 jours par semaine. 90%, ça veut dire une fois par semaine en retard. Donc nous, on vise l'excellence. On a mis en place un certain nombre de choses, des rames de
94%,
réserve.
94%, c'est sur l'ensemble de...
Sur l'ensemble
sur cette
test.
Ligne-là?
Plutôt à 91% de régularité.
C'est plus compliqué sur celle-là?
Absolument.
Ça veut dire
qu'une
fois sur 10, quasiment, le train arrive en retard?
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille pour améliorer ça.
Et pourquoi il arrive en retard une fois sur 10, ce train?
Typiquement, la semaine dernière, 4 vaches. D'accord. Pas 3, 4. Ça, c'est pas... On gère des aléas qui sont externes et on fait en sorte, nous, de pouvoir se donner des marges de manœuvre pour combler les retards.
Mais que votre des vaches ne puissent pas accéder à une ligne, c'est quand même
mais
aussi votre responsabilité.
Non, d'accord. Ah oui. Et donc, en fait, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est on règle les retards le plus rapidement possible. On a mis, par exemple, des conducteurs en réserve ici à Metz pour qu'en moins de 10 minutes, quand il y a un incident sur un train, on puisse trouver une solution alternative. On entretient les rames davantage la nuit pour qu'on ait plus de rames la journée. Et le conseil régional a investi sur des rames supplémentaires pour pouvoir se donner de la marge de manœuvre. On progresse et on va encore progresser. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait à Strasbourg sur le REM.
Olivier Thomas, vous qui êtes vice-président de la FNOT, est-ce que vous comprenez ces explications? Est-ce que vous les acceptez?
Un peu de mal, mais le problème de cette ligne, c'est qu'on a mis tous les œufs dans le même panier. On n'a qu'une seule ligne entre Metz et Luxembourg. Donc d'où on prône l'ouverture d'itinéraires alternatifs, soit des réouvertures de lignes transfrontalières. Normalement, il y a Fontoise, Eudaltich, Esch.
Mais c'est-à-dire doubler la ligne?
Pas doubler, il y a des lignes un peu à parallèles.
D'accord. Au départ, d'autres communes
qui rejoignent le Luxembourg. Il y a aussi on pourrait créer une ligne entre Volmérange et Hayange, qui est pour décharger cette ligne.
Mais vous comprenez qu'il puisse y avoir 9 trains
C'est les aléas de la circulation ferroviaire. Les vaches, ça ne peut pas. Il y aura toujours des aléas. Le problème de cette ligne, dès qu'il y a un incident, c'est un peu le, ça tourne au bazar. Voilà.
Sur les retards, mais aussi sur la saturation, David Valence, Julien nous dit les 9000 places en plus d'ici 2030, comment vous allez faire?
Bon, je voulais d'abord dire qu'il y a d'autres lignes qui vont au Luxembourg, bien sûr. Il y a le Longwy-Luxembourg, par exemple, sur lequel on a mis des trains en plus à la fin de
la Longwy, on est au nord de la Meurthe-et-Moselle.
Mais c'est pas très loin d'ici.
Non.
Pas très loin d'ici, vous y allez très très vite. Donc,
mais on va pas aller ici prendre son train à Longwy pour aller au Luxembourg.
Non, en revanche, toutes les personnes qui vont au Luxembourg ne sont pas obligées de prendre cette ligne.
Absolument.
C'est simplement une précision.
Ça peut être une possibilité.
Et puis pour vos auditeurs au national, qui attendent peut-être leur TER et qui aimeraient en avoir plus, il faut préciser que sur cette ligne, aujourd'hui, à heure de pointe, entre Thionville et Luxembourg, il y a un train toutes les 10 minutes. Entre Metz et le Luxembourg, il y a un train tous les quarts d'heure. Il n'y a pas beaucoup de lignes TER en France où on peut dire ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on
mais
a fait...
elle est quand même saturée.
Elle est quand même saturée. Vous avez dit tout à l'heure 12 000 passagers par jour. On parle même de 19 000 montées. Donc c'est sans doute un peu plus.
Alors
donc,
maintenant,
ce que je voulais vous dire, c'est que on a investi, on a racheté des rames en plus à la Normandie qui vont nous être livrées en 2026. On va être en capacité dès la fin de l'année 2026 de faire augmenter la capacité de la ligne de 50%. Ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui on peut faire monter entre 8 et 9 000 personnes à bord des trains à heure de pointe. Là on pourra, on aura en place disponible, on sera plutôt autour de 13 000. Donc ce sera déjà une forte augmentation.
Parce que les trains 2026, sont plus longs.
Parce qu'on a des trains 5 caisses. Ceux qu'on a achetés, ils ont une plus grande capacité. 5 caisses. Donc ils sont plus haut plutôt que plus long. Et puis deuxième précision, on a effectivement, on est dans une politique où on se donne pour objectif de doubler la capacité de transport et d'emport à l'horizon 2030. Donc pour ça, on investit massivement parce que il suffit pas d'acheter des trains en plus. Il faut créer un centre de maintenance nouveau à Montigny-lès-Metz. Il y a plein d'investissements. C'est des centaines de millions d'euros qui sont engagés depuis des années et ça va produire des effets dès la fin de l'année prochaine, plus 50% de places assises. Et en 2030, plus 100% de places.
Ça, c'est pour la région. Stéphanie Demange, qu'est-ce que vous faites à la SNCF? Il y a un projet dont vous voulez vous inspirer, c'est celui autour de Strasbourg.
Absolument. Alors, sur Strasbourg, on a un train toutes les 15 minutes et on voit que le trafic double deux fois plus vite autour de Strasbourg que dans le reste de la région. Et donc, ce que l'on a mis en place et ce que la région a mis en place avec l'Eurométropole en mettant des trains fréquents, rapides et articulés également avec les transports en commun comme le bus, ça dope la qualité de service, ça dope la régularité et c'est bon pour la planète.
Mais techniquement, comment ça fonctionne?
Ça fonctionne quasiment comme un RER. En fait, quand vous avez loupé votre train, vous en avez un juste derrière, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes.
Et c'est pourquoi ça aussi, on ne peut pas faire ça ailleurs en France?
Mais tout simplement parce qu'il faut de la capacité sur le réseau. Il faut pouvoir faire circuler les trains. Alors nous, on l'a fait à Strasbourg avec des investissements sur l'infrastructure en mettant une quatrième voie. Il y a des travaux qui sont enclenchés avec la région et le Grand-Duché du Luxembourg ici sur des équipements de maintenance. Il y a un tout nouveau centre de maintenance qui va être inauguré l'année prochaine à Montigny. Il y a des travaux sur les quais.
Que la région paye à 100%.
Absolument.
123 millions d'euros.
Avec quel argent?
Avec l'argent du contribuable. C'est un des sujets aussi quand on parle du prix du titre de transport. Moi, j'étais content que Julien dise que le prix, c'était pas la variable principale. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye.
Ça fait à peu près 3 euros, on a calculé, ça fait à peu près 3 euros pour faire l'aller et 3 euros pour faire le retour. 3 euros le voyage.
En moyenne, en France, quand vous prenez le TER, vous payez 30% de ce que ça coûte.
Et donc, ici, c'est pareil?
C'est un peu mieux ici. On est plutôt autour de 35.
Qui paye le reste?
Le reste, c'est le contribuable. C'est les impôts, notamment les impôts des entreprises via les régions. Et donc, il n'y a pas de gratuité dans le transport. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Nous, on pense qu'avoir des prix qui soient raisonnables mais qui permettent de bien couvrir l'offre de transport, c'est intéressant. Il vaut mieux des fois faire payer un peu plus cher et avoir plus de trains que dire qu'on fait de la gratuité et faire rouler moins de trains.
Réaction, Olivier Thomas.
Oui, je voulais juste préciser que l'investissement dans le ferroviaire en France, c'est 50 euros environ par habitant. En Luxembourg, c'est 500. Donc, il y a un delta. En Allemagne, c'est pratiquement le double. En Grande-Bretagne, c'est 200, je crois. Donc, on est vraiment un mauvais élève à ce niveau-là.
Vincent Hayne, peut-être, le regard du voisin. Je vous redonne la parole tout de suite, David Valence, je vous promets. Vincent Hayne, petit regard là-dessus, vous qui êtes luxembourgeois. Davantage d'investissements sur les trains au Luxembourg?
Oui, alors le Luxembourg est un pays qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Ça a eu un impact très fort sur l'économie lorraine, qui est très raccrochée maintenant à l'économie luxembourgeoise. Et donc, les enjeux sont liés. Et le Luxembourg investit énormément dans le ferroviaire. On est à peu près, là, sur la période 2025-2028, à 600 euros par habitant, alors que ce qui a été annoncé dans une récente présentation de la région Grand Est, en commun avec la ministre des Transports luxembourgeoise, d'après mes calculs, on a à peu près à 60 euros d'investissement côté région Grand Est.
Et voyez 600 côté Luxembourg.
Et il y a de l'argent aussi qui va côté français, parce que le Luxembourg a décidé de contribuer à de nombreux financements, mais ça ne va pas assez vite.
David Valence, et puis après, je voudrais qu'on aille à Ucange.
D'abord, il faut savoir une chose, les régions ne sont pas compétentes en matière d'investissement dans les infrastructures ferroviaires. Donc nous, on pourrait rester au bord de la voie et dire c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'État. La région investit tous les ans plus de 700 millions d'euros dans le réseau ferroviaire, alors que normalement, elle n'a pas à le faire. Elle le fait à la place d'autres, et notamment à la place de l'État. Et quand la région s'est créée, on investissait 200 millions en additionnant les trois anciennes régions. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, il faudrait en mettre encore plus, mais on fait des choses à la place de ce qui aurait dû être fait parfois des décennies auparavant.
Alors, des trains, c'est bien, il va y en avoir des nouveaux, c'est ce que vous nous dites, David Valence, pour la région Grand Est. Encore faut-il pouvoir accéder facilement aux gares, et visiblement, il y a du travail à faire dans de nombreuses communes. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Vous nous emmenez pas très loin d'ici, 20 minutes au nord, on y est d'ailleurs passé tout à l'heure, on a traversé cette gare en TER entre Thionville et Metz, c'est Ucange. Vous avez pu constater qu'il fallait pour certains voyageurs beaucoup d'organisation pour pouvoir atteindre la gare et y repartir.
Oui, et devant la petite gare d'Ucange, c'est quotidiennement la même scène. En fin de journée, des dizaines de travailleurs revenus tout juste du Luxembourg sont debout au bord de la route en train d'attendre. C'est le cas de Delia, une avocate qui vit à 5 minutes en voiture de la gare.
C'est mon conjoint qui vient me chercher et qui me ramène le matin. Tout ce qui est bus, c'est juste une catastrophe dans le coin, donc on est dépendant de la voiture.
Il faut dire que l'arrêt de bus le plus près est à 500 mètres, pas pratique d'après Lynn, donc pour elle aussi, seule solution.
On se fait déposer. Il n'y a pas le choix, on vient à pied.
On se gare très très loin pour rester.
Très loin, mais non, même pas, parce qu'il n'y a que des places bleues. On peut rester 4 heures.
Il y a certes un parking gratuit d'environ 300 places juste à côté de la gare. Problème, dès le petit matin, il est complet. Lucas, qui attend sa petite amie, peut en témoigner.
Avant, je me levais à 5h30 pour arriver ici à 6h, pour avoir une place et puis pour prendre mon train à 7h20. Je dormais dans ma voiture le matin. Puis au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Et puis depuis, j'ai fait ce système-là. Je cherche la meilleure solution.
Justement, pour que la meilleure solution soit les transports en commun, Rémi Dick travaille actuellement sur la transformation du réseau de bus. Il est maire de Florange et président du syndicat mixte qui gère les transports du secteur. Sa mission ?
Faire en sorte qu'il y ait des arrêts pile devant les gares, mais aussi que l'accès à la gare ne soit pas un calvaire pour le bus. C'est de faire des travaux très lourds pour créer des voies propres à proximité de ces gares. Parce que si le bus prend autant de temps que le véhicule léger, eh ben les gens préfèrent toujours venir en voiture. Les gens sont prêts à prendre un PV et d'être mal garés plutôt que de venir en transport en commun. Typiquement à la gare d'Ucange, il y a à peu près 500 véhicules légers tous les jours qui envahissent la ville. Aujourd'hui, c'est 90 à 100 PV par jour à Ucange.
L'idée à terme, c'est aussi de créer des parkings relais et de mettre en place des navettes spéciales pour les gares. D'ailleurs, depuis mars, il en existe une dans le secteur entre Guénange et Ucange, mais elle ne passe que dans ces deux communes.
Alors, merci Luc Chemla pour ce reportage. David Valence, il ne faut pas juste réfléchir à mettre davantage de trains, il y a tout ce qui va autour. Est-ce que de ce point de vue-là, là encore, on a été un peu dépassé par cette augmentation du trafic ces dernières années, ces gens qui essayent d'accéder aux gares, qui n'arrivent pas à se garer, 90 à 100 PV distribués dans cette commune par jour?
Non, c'est un travail partenarial en fait, parce que vous savez que dès qu'on sort de la gare, c'est la commune ou l'intercommunalité qui investit.
C'est pas votre compétence, mais...
Nous, on les accompagne, ouais. On dépense à peu près 15 millions par an pour accompagner les travaux. Il y a d'ailleurs eu des travaux en gare d'Ucange. On a construit des parkings à ouvrage, y compris la région elle-même, là aussi, alors que c'est pas elle de le faire à Molsheim, par exemple, en Alsace. Donc, des investissements autour des gares, il y en a dans toute la région Grand Est, qu'on accompagne. Mais c'est vrai que, parfois, la croissance est tellement spectaculaire sur certaines lignes que... on se retrouve face à des phénomènes de saturation. Et c'est vrai, y compris parfois dans des villes moyennes, en zone rurale. On se rend pas compte. Là, on parle d'une zone très, très dense où il y a beaucoup d'habitants.
On sera en zone rurale dans quelques minutes.
En zone rurale, on peut avoir des phénomènes comparables.
Et puis, il y a la question des revenus. Moi, j'ai discuté. Alors, Julien, qui était avec nous tout à l'heure, et puis Jérémy, qui était avec nous dans le train, m'ont dit, nous, on s'est installé près de la gare de Metz. Comme ça, on y va à pied. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se loger en centre-ville. Olivier Thomas, c'est un sujet aussi d'accéder aux gares pour les usagers. Pour présenter ?
Bien sûr, le sujet du parking est important. Je vois il y a plein de parcs au train, mais ils sont payants. Ils devraient pouvoir être accessibles à ceux qui ont un billet. Et ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup à faire encore à ce niveau-là.
Stéphanie Domange, est-ce que, par exemple, des parkings à vélo, c'est de votre compétence?
Ben, ça, c'est
le plus grand parking à vélo a été inauguré à Lyon il y a quelques jours, 1500 places.
Alors, il y a des parkings à vélo qui sont travaillés par Gare et Connexion, mais surtout, il y a un gros investissement de la région pour, dans le cadre du plan vélo, permettre à chacun de rallier la gare en vélo. Et ça, c'est bon aussi pour la santé de nos voyageurs. On sait que les
oui, mais
les
il faut motos, savoir, il faut pouvoir active, garer son vélo. Il y a énormément de vols de vélo, donc il faut que ce soit sécurisé.
Oui. Et il y a des parkings à vélo sécurisés qui se développent. D'ailleurs, si vous venez à Strasbourg, mais vous le voyez aussi ici à Metz, le développement de l'usage du vélo est phénoménal. Nous, on le voit dans les trains, dans les gares. Les modes doux aussi, les trottinettes se développent énormément. Et la région participe aussi au développement des pistes cyclables pour permettre de rejoindre la gare.
Vincent Hein, ça c'est un sujet, ce qu'on appelle l'intermodalité. C'est ça que les transports correspondent. Là, on entendait cet exemple, Florent Géhucange, avec un réseau de bus qui n'est pas adapté finalement pour accéder facilement aux gares.
Oui, effectivement. Si on regarde par rapport aux 125 000 travailleurs frontaliers, par exemple, qui sont une partie des usagers de cette ligne.
Juste 125 000 travailleurs frontaliers, combien ils vont en voiture?
Voilà. Moi, je dirais à peu près 60-70%.
60-70%.
La ligne de train, ça doit être entre 10 et 15% des déplacements.
Okay.
Et voilà, la Lorraine est quand même plutôt bien structurée autour d'un sillon, mais il y a aussi une certaine capillarité organisée. Et c'est des problématiques qu'on retrouve aussi à l'intérieur du Luxembourg. Si vous avez deux ou trois trains de 1000 personnes qui arrivent à la gare de Luxembourg, vous saturez la gare, vous saturez le tramway. Donc, il y a tout un tas d'investissements connexes qui sont colossaux qu'il faut réaliser.
Alors, parmi les nouveautés, quand on parle de trains ici en région Grand Est, il y a un sujet qui arrive assez rapidement sur la table, c'est celui de la suppression de ces guichets SNCF. À partir du 1er janvier prochain, 13 guichets vont fermer leurs portes, 16 autres vont réduire leurs horaires. On écoutera vos explications, David Valence, dans un instant. Pourquoi vous faites ça? En tout cas, les syndicats sont pas très contents. On a interrogé Pierre Laurent, secrétaire général du secteur fédéral CGT des cheminots de Lorraine. Il dénonce une casse du service public.
C'est déconnecté des ambitions qu'on se prête aujourd'hui dans les discours politiques. On parle de proximité du service public. Il y a eu un débat très récemment, par exemple, sur la proximité de l'accès aux soins et la santé. Il y a aussi un sujet sur l'accès au transport public ferroviaire et aux services qui sont proposés par les guichets, notamment. On se sent abandonné. À la fois, on va connaître des suppressions d'emplois, des cheminots qui vont soit perdre leur travail, soit devoir aller travailler très, très loin de là où ils habitent. Et puis pour les usagers, ça va être des fermetures de guichets, donc moins de services publics. Il y a effectivement aujourd'hui un accès au numérique, mais l'accès au numérique, il n'est pas facile pour tout le monde. Et ça contribue également à la désertification des gares, avec toutes les problématiques que ça peut poser.
David Valence, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision avec la région Grand Est ?
Bah, tout simplement parce que les citoyens ont changé leurs habitudes. Aujourd'hui, quand on regarde les titres de transport régionaux qui sont vendus, il n'y a même pas 11% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur des guichets. C'est-à-dire que à plus presque 90%, on achète son titre de transport ailleurs qu'un guichet. Moi, j'ai des exemples dans les guichets qui vont être supprimés où on vend 8 titres de transport régionaux sur 10 heures dans une journée. Est-ce que c'est un bon usage de l'argent public de dépenser, parce que c'est ainsi que SNCF nous le facture, 200 000 euros par an pour maintenir un guichet qui vend 8 titres de transport dans la journée? Moi, je me pose la question.
Mais il y a encore des gens qui vont au guichet. Qu'est-ce qu'on fait pour eux?
Juste pour vous donner un exemple, 200 000 euros, c'est le coût de 2 circulations ferroviaires. C'est-à-dire qu'avec un guichet supprimé, vous faites rouler 2 trains de plus. Et donc, aujourd'hui, un guichet, il a une activité très différente. Il va faire du service après-vente ou du trajet longue distance. Donc, on propose une solution. À chaque fois qu'on ferme un guichet, on a une solution. On a un partenariat avec la Poste ou avec l'Office de tourisme, parfois avec la Maison France Service, pour qu'on puisse vendre des titres de transport ailleurs et souvent avec des horaires plus étendus.
Olivier Thomas, vous qui représentez les usagers des transports.
Qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai perdu mon portable dans le train. J'étais en gare dans les Hauts-de-France. J'étais au guichet. Et elle a contacté rapidement le contrôleur au bout de 5 minutes et mon portable était récupéré. Au bout de 2 heures, je l'avais récupéré en gare.
Donc vous dites, s'il n'y a pas de guichet, qu'est-ce que je fais?
Voilà, et puis c'est un service, il n'y a pas que la vente de billets, elle rend des services, des renseignements.
Est-ce que ça ne va pas accentuer la fracture entre les plus jeunes et les plus âgés? Moi, j'étais très frappé dans le train ce matin et tout à l'heure de voir beaucoup de jeunes. D'ailleurs, je crois que ce sont les chiffres, vous me les confirmerez, Stéphanie Domange. Il y a beaucoup de moins de 35 ans.
Oui, un tiers de nos clients sont des jeunes et ça croît et on a vendu plus de 500 000 cartes fluo pour les jeunes.
Voilà, ça marche très bien pour les jeunes, mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre toute une partie de la population qui se retrouve plus dans le train, qui aime bien les guichets, etc., et qui a du mal à y accéder? au fond, Stéphanie Demange.
Moi, je pense qu'il faut dire quelque chose qui est important. C'est pas parce qu'un guichet ferme dans la gare que la gare ferme. La gare, elle restera ouverte. Et au contraire, on est en train de réhumaniser les gares sur tout un tas de services qui n'y étaient pas. Je vous donne un exemple.
Mais vous faites ce constat quand même, même si c'est bien qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait une partie de la population peut-être qui est moins là.
À Mutzig, on trouve toujours une solution, comme le disait David, soit à la poste, soit à l'office de tourisme, soit dans les maisons de France Service pour pouvoir vendre les billets. Mais je vous donne un exemple. À Mutzig, on loue des vélos dans la gare. Ça marche tellement, tellement bien. Il y a tellement de monde qui vient que maintenant, ils ont ouvert un restaurant et un bar dans la gare. Et donc, ça crée un nouveau service autour de la gare et ça redonne la centralité.
Tout le monde ne fait pas du vélo non plus.
Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a 28 gares.
Non, mais toujours dans cette question de génération. D'un mot, Olivier Thomas, vous voyez acquiescer.
Surtout à 75 ans, on ne fait pas toujours du vélo.
On peut, hein, mais pas obligé.
Donc, c'est toute une frange de population qui finalement ne voyage plus. C'est une fracture numérique. C'est irrespectueux envers nos aînés. Finalement, on les voit rarement dans les trains. Et si j'ai fait le même constat, on en voit de moins en moins.
David Valence, sur ce point.
Le service public, c'est la production ferroviaire. Le guichet, c'est la façon dont vous y accédez. Et quand vous êtes sur un long trajet, vous n'allez pas acheter votre titre de transport à la dernière minute. Vous pouvez organiser votre passage au guichet qui est peut-être un peu plus loin de chez vous. Donc, encore une fois, on ne peut pas dépenser l'argent public de la même façon alors qu'aujourd'hui, il y a à peine 10% des titres de transport qui sont vendus au guichet. On ne peut pas faire comme il y a 20 ou 30 ans. Ce serait du gâchis d'argent public. Et si on faisait ça, on ferait rouler moins de trains. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Et il faut faire des choix qui maintiennent le service public. On pourra toujours acheter des titres de transport dans toutes les communes concernées.
Alors, on l'a dit, trafic de train en augmentation à tel point que des lignes ferroviaires rouvrent. Et ça va être le cas dans les prochaines années d'une ligne ici en Lorraine, Nancy-Contrexéville, donc entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Cette ligne ne fonctionne plus depuis 2016. Les habitants se sont battus et les élus aussi pour qu'elle rouvre. Ça va être le cas. La région investit 150 millions d'euros. Les travaux vont débuter cette année. Ça repart normalement en 2027, mais pas avec la SNCF, avec Transdev. C'est un nouvel acteur, c'est un soulagement pour les habitants que Luc Chemla est allé rencontrer à Mirecourt. Luc, c'est à une trentaine de kilomètres au nord-ouest d'Épinal.
Oui, et la gare est aujourd'hui totalement à l'abandon, envahie par les arbres folles. Depuis bientôt 10 ans, on ne croise plus de voyageurs ici. Et dans la commune, au niveau de l'atmosphère, ça se ressent, explique Pierrot, surnommé Tonton Flingueur. Il tient un bar dans le centre.
C'est pas photo, hein. C'est totalement mort par rapport à ce qu'on avait à l'époque du train. C'est même catastrophique.
On a encore 2 ans à tirer la langue, puis on revivra, ajoute Pierrot. Et le retour du train permettra à certains habitants d'enfin retourner régulièrement à Nancy, car ce n'est plus courant, explique Pascal.
On y va beaucoup moins, ouais. C'est trop galère. Aujourd'hui, vous avez déjà les bouchons à l'entrée de Nancy, et puis vous avez un problème de stationnement énorme. Donc le train, ouais, ça sera un soulagement.
Encore faudra-t-il être dans la commune d'ici là. Eva, 51 ans, n'a pas d'emploi, pas le permis, et doit donc concentrer ses recherches sur Mirecourt ou les communes voisines, mais c'est trop restreint. Elle réfléchit donc à déménager.
On est en train en pleine démarche de recherche sur l'appartement qui nous rapprocherait moins de l'emploi, mieux desservi. On nous dit toujours il faut être autonome, mais en même temps, petit à petit, les moyens pour être autonome disparaissent les uns après les autres.
Du côté des élus aussi, on attend avec impatience le retour de ce train, notamment Jérôme Klein, président de la communauté de communes du Pays du Saint-Ouen dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, car il faut désengorger les routes.
Parfois, des trajets qui, en temps normal, prennent 20-25 minutes, peuvent aller jusqu'à l'heure. Dans la commune de Saint-Tré, on a entre 8 et 12 000 véhicules jour qui se dirigent vers Nancy, alors qu'on ne fait que 15 000 habitants. Donc vous imaginez bien qu'il y a d'autres personnes plus loin que notre territoire qui empruntent les voies de circulation routière.
Avec ce marché, Transdev accentue sa concurrence de la SNCF et il y a une logique, selon Thierry Van Ost, son directeur commercial dans la région.
Transdev a une expérience ferroviaire importante, notamment dans les pays scandinaves et en Allemagne depuis des années. Cette ligne était assez symbolique de ce qu'on pouvait faire pour revitaliser et réaménager un territoire rural. Et de continuer dans notre ADN, aujourd'hui Transdev est le leader français du transport interurbain.
La reprise de la ligne Nancy-Contrexéville va créer 300 emplois pendant les travaux, puis 60 en permanence lors de son fonctionnement.
Alors ça, c'est dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, pas très loin d'ici, puisque nous sommes à Metz. C'est le cas aussi entre Nice et Marseille. Hein. On l'a vu il y a quelques jours. Pourquoi ce choix, David Valence, de confier cette ligne à Transdev plutôt qu'à la SNCF ?
Ce qui est principal dans ce sujet, c'est quand même qu'on rouvre une ligne.
Certes.
Et qu'on investit 150 millions pour le faire. Et que là où avant que la ligne ferme, il y avait 5 allers-retours par jour, il y en aura 14. Ça change tout quand même.
Mais il n'est pas anodin ce choix.
Et c'est une vraie volonté politique. Il se trouve que le groupe SNCF a candidaté à ce marché et qu'il l'a perdu pour des raisons de coût, notamment pour les investissements. Parce que ce que vous n'avez pas dit dans votre reportage, c'est que la région n'ouvre pas seulement les circulations ferroviaires. Elle devient propriétaire du rail et elle décide qui va faire les travaux. C'est un groupement qui s'appelle Nova 14 avec NGE Concession et Transdev qui a remporté le marché. Donc on ne se contente pas juste d'ouvrir à la concurrence pour faire rouler les trains comme c'est le cas entre Nice et Marseille. On devient propriétaire du rail et on le renouvelle à 100% pour être sûr de plus avoir des problèmes sans arrêt et des temps de parcours qui s'allongent.
Stéphanie Domange, réaction, vous qui êtes directrice SNCF Voyageurs dans le Grand Est?
Nous déjà, on se félicite de la réouverture de petites lignes parce que ça permet de développer le ferroviaire et c'est bon pour tout le monde. Alors oui, on avait candidaté, mais il y aura d'autres appels d'offres et on compte bien candidater à nouveau et les remporter. Et puis aussi, on travaille avec la région, il faut le dire, au développement du ferroviaire sur les petites lignes. On a un projet qui s'appelle Drézy avec l'industriel LOR ici sur la région. C'est un petit matériel ferroviaire qui emporte jusqu'à 100 personnes, qui roule à 100 km/h et qui pourra desservir la ruralité à des coûts qui sont supportables pour la région et pour l'ensemble du territoire. Et globalement, avoir un train qui s'arrête à sa porte, qui peut être fréquent toutes les 30 minutes, je pense que tout le monde l'attend dans la ruralité.
Olivier Thomas, il faut rouvrir d'autres lignes?
Bien sûr, moi je pense notamment vers Gérardmer, qui a un gros potentiel touristique, qu'on réclame depuis des années. Mais il y a eu final de Saint-Dié, donc David Valence s'est beaucoup battu pour la réouverture.
Vous avez été maire de Saint-Dié, David Valence, je le précise. Allez-y, Olivier Thomas.
Le seul bémol que je dirais, c'est qu'il n'avait plus de train. Maintenant, les habitants, ils regardent passer le train. Parce que sur les 8 arrêts qui existaient, il n'en reste plus qu'un. Donc, on est très satisfait, mais avec un petit bémol.
D'un mot, David Valence, est-ce qu'il y a d'autres projets, David Valence, de réouverture de ligne en région Grand Est?
Écoutez, c'est déjà deux lignes. Il n'y a pas beaucoup d'élus régionaux qui pourra dire qu'il a vécu en région la réouverture de deux lignes ferroviaires dans un itinéraire politique. Et moi, normalement, je devrais avoir vécu ça. Donc c'est assez exceptionnel. Une région française qui investit 150 millions pour ouvrir une ligne de façon certaine, avec des travaux qui vont commencer à la rentrée, c'est déjà un peu exceptionnel. Vous savez, une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que le réseau actuel, celui où il y a aujourd'hui des trains, est en très mauvais état. Et donc, après, on marquera une étape et on va surtout investir sur le réseau qui existe pour éviter d'avoir des temps de parcours qui se rallongent. On rouvre des lignes, oui, mais on investit d'abord sur le réseau structurant.
Vincent Hein, en guise de conclusion, je voudrais avoir votre regard sur ce débat français, s'adapter finalement aux nouveaux usages de gens qui continuent de prendre massivement la voiture, mais qui se tournent de plus en plus vers le train.
Oui, effectivement. Non, mais c'est évident qu'il y a un potentiel de développement, en tout cas pour ce qui concerne le Luxembourg, d'acheminer davantage de clients vers leur lieu de travail en train dans des meilleures conditions. Et on voit que les investissements qui ont été annoncés, les cofinancements luxembourgeois qui ont été annoncés, on a du mal côté français, malgré la volonté très forte de la région que je vois ici avec David Valence, de concrétiser. Et je pense qu'il faudrait créer des structures, créer une gouvernance qui permette de manière beaucoup plus concertée entre le Luxembourg et la France, qui se concernent déjà énormément aujourd'hui. Et là, on a des exemples, par exemple, du côté de Genève.
Est-ce que je voulais vous demander, ça marche mieux entre la France et la Suisse? Il y a énormément de Français qui vont travailler en Suisse.
Du côté de Genève, effectivement, il y a quelques années, mais il y avait là un manque d'infrastructures pour déplacer les frontaliers en train. Et il y a des investissements de la Fédération Suisse et de la France qui ont été gérés ensemble dans le cadre d'une société anonyme qui est une filiale entre la SNCF et les chemins de fer suisses. En tout cas, il y a un degré d'intégration dans le pilotage, la planification des projets, qui est beaucoup plus satisfaisante à nos yeux que ce qu'on voit actuellement au niveau luxembourgeois, même si des efforts sont mis.
Je voudrais vous remercier tous les quatre d'être venus jusqu'à Metz aujourd'hui participer à cette émission, à ce 13-14. Il nous reste encore quelques minutes, mais je voulais vous saluer. Olivier Thomas, vice-président de la Fédération nationale des usagers des transports ici en région Grand Est. David Valence, conseiller régional Grand Est chargé des transports. Merci à Vincent Hein d'être venu, expert mobilité et transport depuis le Luxembourg, la fondation IDEAS. Stéphanie Demange, directrice SNCF Voyageurs TER Grand Est. Je voudrais juste avant de rendre l'antenne, qu'on passe de l'autre côté de cette magnifique gare de Metz. Nous sommes devant cet édifice depuis le début de cette émission, parce qu'il y a un autre monument évidemment marquant du paysage messin depuis 2010. C'est le Centre Pompidou, majestueux bâtiment blanc, succès populaire depuis 15 ans. 5 millions de visiteurs pour le musée d'art contemporain qu'on connaissait à Paris, qu'on connaît maintenant en Lorraine. Et ce matin, on est allé à la rencontre d'Elsa de Smet. Elle est docteure en histoire de l'art, responsable du pôle public. Et dès l'ouverture des portes à 10h, elle a accueilli ce matin des dizaines de collégiens épatés.
C'est pour certains une soucoupe volante, pour d'autres un chapeau, une sorte de grand champignon. En tout cas, ce qu'il a, c'est que c'est un bâtiment qui est très enveloppant.
Incroyable.
Alors notre grande fierté, c'est qu'en 10 ans, on a baissé la moyenne d'âge. On est passé de 47 ans, moyenne d'âge des nouveaux visiteurs, à 36 l'année dernière. Donc ça, c'est tout un conglomérat d'efforts de programmation des publics, de programmation d'exposition, de travail sur le territoire. On travaille énormément avec les écoles. On a environ 45 000 scolaires qui viennent par an.
De base, on vient du collège Emisola ou d'Altige, donc on est venu pour une sortie scolaire et puis voilà.
Qu'on allait voir beaucoup de trucs, beaucoup de sculptures et tout.
On a un truc avec les Allemands. Enfin, normalement, on a des correspondants allemands qu'on va retrouver.
C'est stylé.
Ça ressemble à un chapeau chinois parce qu'en fait, on a vu ça en art plastique quand j'étais en 5e. Je trouve que le resto, il est chouette.
C'est vraiment une invitation à kiffer au Centre Pompidou Metz.
L'invitation à venir à Metz, vous pouvez le faire avec vos correspondants allemands ou pas, comme ces élèves qui sont en train de visiter. Je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu ce 13-14 exceptionnel possible. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette émission. On est très heureux d'avoir pu la réaliser. Évidemment, tous les services de la SNCF qui ont accompagné notre équipe technique, Guillaume Rialan, Ibrahim Seliem, Jérémy Tuil et Romain Luquins. Cécilia Arbona à la rédaction en chef, Claire-Sophie Collet, notre chargée de programme, la brasserie, l'ABC de Metz, magnifique brasserie qui nous a accueillis aussi aujourd'hui, et puis nos collègues d'ici Lorraine qui nous ont donné un bon coup de main également, et vous les connaissez bien, Mathieu Vidard. Bonjour Mathieu.
Absolument, et je les salue, les camarades de Lorraine.